L'Europa Voice numéro 115, mesdames et messieurs, bonjour, on espère que vous allez bien. 115e épisode d'Europa Voice, donc après quelques mois d'absence, on est ravis de vous retrouver, Nathanaël Bloch.
Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver, Marianne.
On salue Christophe Mallet qui reprendra les rênes d'Europa Voice prochainement. Nathanaël, on va aborder, comme d'habitude, deux thèmes d'actualité aujourd'hui, le Niger et Israël. Il y a beaucoup à dire. Hein. On commence par le premier sujet, et au Niger, des putschistes militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Depuis, il est retenu avec sa femme et son fils dans le palais présidentiel de Niamey, la capitale, dans ce qui est décrit comme des conditions déplorables, selon un conseiller. Nathanaël, avant toute chose, pourquoi ce renversement ? Quels sont les arguments avancés par les putschistes et notamment le général Abdourahamane Tiani, qui s'est autoproclamé chef de l'État ? Nathanaël, il s'est passé quoi concrètement ? Alors, c'est beaucoup de questions, mais expliquez-nous.
Alors, en fait, il y a deux éléments à analyser par rapport à ce coup d'État au Niger. D'abord, au niveau de la région, en fait, c'est une région qui est extrêmement instable depuis 2020. Et il y a eu plusieurs pays qui ont fait les frais de coup d'État et de renversement des pouvoirs en place. Je pense notamment au Mali, par exemple. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'aussi, en fait, il y a une vraie insatisfaction au niveau de la société civile et des tensions intra cette société civile. Et d'ailleurs, ce qui est l'exemple le plus révélateur de ces tensions, c'est qu'on est à peu près à 50-50% de soutien au niveau soit des putschistes, soit de l'ancien président qui est renversé. Donc c'est-à-dire qu'on a une population qui est aussi divisée sur ces questions-là. Donc vous mettez ça à l'intérieur d'une poudrière dans cette zone où, rappelons-le aussi, la France a mis fin aux opérations anciennement Serval et maintenant Barkhane, et ben vous avez ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un putsch dont on ne sait absolument pas à l'heure actuelle les tenants et les aboutissants.
Mais pourquoi la société civile est divisée ? Est-ce que c'est parce que la population était mécontente du président Bazoum ? Est-ce qu'il y avait de l'insécurité ? On sait que les putschistes, ils ont avancé comme argument le fait qu'ils voulaient rétablir une sorte d'ordre constitutionnel. C'était pas déjà le cas sous la présidence Bazoum ?
Alors, il y a un élément qui est très important, c'est que, en fait, vous avez plusieurs organisations internationales, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, mais vous avez aussi des organisations non internationales, mais d'ingérence étrangère, j'allais dire, et on peut citer le groupe Wagner, par exemple, qui est présent dans ces zones-là. Et donc, vous avez ces tensions entre différents groupements, entre différentes institutions, qui font que la population se range d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire qu'on a une population qui est vraiment divisée par rapport aux forces d'ingérence extérieure qui sont présentes sur ce territoire. Le deuxième élément, c'est qu'aussi, on a une vraie rupture, en fait, de la part de la population dans la vision que, d'un côté, les Européens veulent développer par rapport à contenir les groupes terroristes, notamment, je pense à Al-Qaïda au Sahel, dans cette région-là, et les populations qui trouvent que cette présence européenne est en fait elle-même une ingérence extérieure. Donc, vous avez vraiment une population civile qui est divisée par rapport aux forces, et là j'ai cité les forces françaises, mais vous avez aussi des Américains qui sont sur place, vous avez des Italiens, vous avez des Allemands, donc il y a vraiment beaucoup de contingents qui sont présents. Et encore une fois, je crois que c'est important de rappeler que c'est pas seulement le Niger, c'est simplement l'extension de l'évolution de la stratégie française au Sahel, avec les premiers coups d'État, les premiers renversements de gouvernement qui ont eu lieu à Ouagadougou ou à Bamako entre 2020 et 2022. Donc c'est le problème, c'est que c'est un peu un effet de poudrière. Et puis surtout, on a plein de pays qui, pour l'instant, se contentaient simplement de contenir ce qui se passait là. Je pense notamment à l'Algérie, qui, elle, voit d'un très mauvais œil cette déstabilisation du pouvoir en place au Niger, et qui voit aussi d'un très mauvais œil les velléités d'intervention militaire de puissances étrangères comme les Européens ou même la CEDEAO avec un contingent nigérian très important, parce qu'ils ne veulent absolument pas que le statu quo à l'heure actuelle, c'est-à-dire une espèce d'accalmie avec les groupes terroristes, ne vole en éclats, et donc ça provoque de l'instabilité bien au-delà des frontières du Niger.
Justement, là, vous avez soulevé plein de points. Vous avez parlé des pays voisins, de la CEDEAO, de la communauté internationale, de la relation avec la France. On va aborder tout ça. Commençons justement avec les pays voisins, les pays ouest-africains notamment, qui se divisent totalement. D'un côté, les régimes militaires qui soutiennent le putsch. De l'autre, il y a ceux qui appellent au rétablissement de l'ordre constitutionnel, ce même ordre constitutionnel que les putschistes veulent rétablir eux-mêmes. Au milieu de tout ça, il y a la société civile. Ça, on en a déjà parlé.
Alors, on a, j'allais dire, trois groupes de pays voisins. On a trois mentalités en ce moment qui gouvernent autour du Niger. On a d'abord, encore une fois, les pays qui ont fait face au retrait des forces françaises et qui ont eux-mêmes été l'objet de coups d'État. Je pense au Burkina Faso, je pense au Mali. Bon, on a ces pays-là qui supportent, alors des fois avec les lèvres à moitié fermées, mais qui supportent les putschistes au Niger. Ça, c'est le premier groupe de pays parce que, en fait, pour eux, ça va dans le même sens de ce qui s'est passé dans leur propre pays. Et puis, l'idée, encore une fois, c'est de renverser ces pouvoirs en place qui sont là depuis très nombreuses années, même si les présidents ont pu changer. Donc ça, c'est le premier groupe de pays. Ensuite, on a un deuxième groupe de pays au sein même de cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest, au sein même de cette CDAO, comme le Nigeria, par exemple, qui sont prêts à intervenir d'abord par la force diplomatique et ne laisser la solution militaire qu'en cas de dernier ressort. Et donc ça, ce sont les pays qui ne sont pas prêts à voir un autre régime putschiste s'installer dans la région, parce qu'encore une fois, c'est aussi un élément d'instabilité. Et puis après, on a les pays en dehors de la CDAO, mais qui sont toujours frontaliers d'une certaine façon de cette zone d'Afrique de l'Ouest, notamment les pays du Maghreb, on a cité avant l'Algérie, pour qui il faut à la fois ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait un peu ce statu quo par rapport à la situation dans ces pays-là, par rapport aux groupes terroristes qui sont présents. Il ne faut pas aussi l'oublier, hein, quand on a parlé de la société civile avant, on a quand même eu des démonstrations qui était très anti-française, qui était très pro-Poutine. On avait des slogans vraiment pro-président russe. Donc ça veut dire qu'on a encore d'autres éléments de déstabilisation assez nouveaux dans la région. Et donc, pour ces raisons-là, on a aussi tout un tas de pays qui peuvent être objectivement alliés de Moscou, mais qui n'ont pas non plus un intérêt à ce que la situation dégénère. Donc c'est très, très compliqué. Il y a quand même des tentatives de tractation de la part des organisations internationales, de l'Union européenne, de la CDAO, de l'Union africaine. Pour l'instant, ça ne donne rien parce que tout simplement, les conditions de sécurité ne sont pas forcément là pour que les délégations puissent rencontrer le président sortant qui est toujours enfermé dans son palais, le nouveau pouvoir en place. Et donc, on tâtonne encore un peu. C'est-à-dire qu'on est sur un putsch, mais les portes sont encore à moitié fermées ou à moitié ouvertes pour qu'il y ait une sortie de crise politique / diplomatique avant qu'il y ait une vraie intervention militaire et une escalade dans la région.
Justement, en parlant d'intervention militaire, on a évoqué plusieurs fois la CDAO. Pour nos auditeurs, on précise que la CDAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que la CDAO peut faire à partir de maintenant? Quel est son pouvoir?
Le pouvoir, c'est une très bonne question, comme souvent, Marianne. Le pouvoir de la CDAO, finalement, il est le pouvoir que les pays qui composent cette communauté ont. On a des pays qui composent cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui ont des intérêts qui sont pour l'instant très divergents, puisqu'il y a des pays de cette communauté où il y a eu des coups d'État, il y a des pays où il y a un très fort contingent militaire et qui sont prêts à intervenir, et puis il y a des pays qui sont un peu en dehors de tout ça. Il y a des pays dans cette CDAO où il y avait une force française, encore une fois on va citer Serval et Barkhane, qui étaient en place pendant des années et ça fait à peine 2-3 ans qu'il y a eu ce retrait-là. Donc pour l'instant, je dirais que la position de la CDAO, c'est plus une position de facilitatrice, de enabler, pour le dire en bon anglais et en mauvais français, de permettre d'avoir des discussions et de mettre tous les acteurs autour de la table. Mais il n'y a absolument aucun poids politique dans cette CDAO. Elle peut décider ce qu'elle veut. Si les acteurs autour de la table ne se rencontrent pas, s'il n'y a pas des tractations qui sont organisées et s'il n'y a pas une volonté de ces pays-là de trouver une solution de sortie de crise, il se passera strictement rien. Et encore une fois, vous avez posé la question de la société civile et je crois que c'est important de le rappeler parce qu'on a aussi trop tendance à considérer que les États africains, par un petit peu facilité, par cliché, par mauvais raisonnement, ce sont que des votes à 90%. Le président, Mohamed Bazoum, il avait été élu avec un peu plus de 55% des voix. Donc ça veut dire qu'il y avait eu un processus démocratique, qu'il avait été respecté et qu'on est dans des chiffres tout à fait cohérents d'une élection. Donc c'est une société en fait aussi où le président il a été choisi. Donc quand il a été choisi avec 55% et qu'il y a un putsch, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction de 45% au moins des personnes. On n'est pas du tout dans des ordres de grandeur où il y a une élection qui est truquée, elle est à 95% et donc il y a une insatisfaction. Il y avait un processus démocratique et je pense que ça, on l'entend trop peu en fait dans les médias, mais on a aussi tendance un peu à le sous-estimer. C'est que c'est un putsch au sein d'une société avec un processus de légitimité démocratique tout à fait cohérent et tout à fait honorable.
On va parler de la France dans un instant, mais s'il y a une intervention militaire, ce n'est pas le cas pour le moment, mais s'il y a recours à la violence pour résoudre cette crise, si je puis dire, au Niger, quelle sera la place de la communauté internationale? Tout à l'heure, vous avez évoqué les États-Unis, on a un petit peu parlé de la Russie également. Comment va réagir la communauté internationale ou comment réagit déjà la communauté internationale?
Il y a une présence militaire dans certains de ces pays de la CEDEAO. Même s'il y a une, ça aussi c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que même s'il y a une évacuation des ressortissants français ou américains ou d'autres européens, il y a quand même encore des troupes militaires qui sont positionnées là-bas. Et rappelons-le, hein, le Nigeria a un rôle primordial dans cette sortie de crise parce que c'est là où il y a le plus gros contingent de militaires qui sont positionnés à ce moment-là. Donc, en fait, s'il y a une intervention... D'abord, la question, c'est est-ce qu'il y a une intervention militaire? Est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, c'est encore d'actualité parce que pour l'instant, il y avait des ultimatums qui ont été donnés par les CEDEAO et toutes les ultimatums pour avoir des conversations, pour amener les acteurs autour de la table, n'ont pas abouti. Les putschistes, eux, considèrent qu'ils n'ont pas cédé face à la pression. Et donc, l'option militaire est encore sur la table parce qu'on n'a pas réussi, encore une fois, à mettre ces acteurs autour de la table. Je veux aussi préciser que là, on parle d'initiatives qui sont connues de tous, mais il y a évidemment beaucoup d'initiatives de ce qu'on appelle diplomatie parallèle, dont on a encore certainement peu connaissance ou pas connaissance. D'ailleurs, initiatives africaines ou en dehors de l'Afrique, je ne serais pas étonné, et là je m'avance un peu, qu'il y ait même des initiatives prises par les Russes, dont on n'a pas connaissance. Donc voilà. Mais donc ça veut dire aussi que si ça n'a pas abouti, l'option militaire, elle est encore sur la table. La question, c'est plutôt dans quel cadre et comment est-ce qu'on... On légitime, on justifie une intervention militaire quand, encore une fois, on a eu le retrait des troupes françaises du Mali, avec tout ce que ça a impliqué en termes de messages pour les populations locales, en termes de pertes aussi. Hein. Il faut le rappeler, très souvent c'est confidentiel, mais les plus grandes pertes de nos militaires sur un champ d'opération extérieur, elles se sont passées au Mali. Donc c'est pas non plus neutre pour un pays comme la France d'envoyer ces hommes avec une probabilité qu'il leur arrive quelque chose. Donc c'est très difficile à dire. Moi, mon intime conviction, c'est qu'on n'est pas encore au bout des tentatives de tractation et que malgré les échecs des premières négociations et des premières échéances qui ont été données notamment par la CEDEAO, je pense qu'on va avoir encore d'autres échéances et d'autres tentatives de médiation avant effectivement d'arriver à une option militaire.
Donc on n'est pas du tout sur une résolution de conflit, les négociations se poursuivent, mais pour le moment n'aboutissent à rien.
Oui, c'est quand même très récent, hein. ça a quelques semaines. Ce qui se passe au Niger va au-delà des frontières du Niger. Ça concerne tous les États de cette communauté d'Afrique de l'Ouest, ça concerne les États limitrophes. Et encore une fois, vous avez des fois des alliances qui peuvent paraître contre nature, mais un peu les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, quid justement des groupes Wagner et des alliances avec la junte militaire locale. Il y avait aussi tout un pan en fait de doctrine diplomatique qui montrait que la junte militaire avait un petit peu remis justement Al-Qaïda au Sahel dans le jeu avec une approche beaucoup plus réelle politique qu'elle ne l'était avant. On est moins dans le combat direct, mais voilà, mais comment composer en fait avec ces groupements et ces organisations terroristes, mais qui de fait en fait existent. On est sur plusieurs tableaux qui font que justement on cherche encore à mettre ces différents acteurs autour de la table avant vraiment d'aller à la solution militaire et d'ouvrir en fait un conflit de plus dans cette zone déjà très touchée d'Afrique.
Et on termine, on l'a dit, en évoquant la France. Vous parliez des ressortissants qui avaient été évacués. Paris a rapatrié des centaines de ressortissants. Les craintes, Nathanaël, ne sont pas qu'humanitaires. Hein. Elles sont aussi économiques, politiques, militaires. Vous en avez déjà parlé.
Oui, il y a alors évidemment, il y a les drames humanitaires qu'il faut éviter. Il y a le fait de faire sortir ces ressortissants. Il y a tout l'aspect diplomatique, la fermeture, le rappel d'ambassadeurs, etc. D'ailleurs, dans les deux sens, hein, ça marche aussi pour l'ambassadeur du Niger en France. Il y a un enjeu qui est encore peut-être un peu plus prégnant par rapport au Niger, c'est la question de l'uranium. En fait, la France est dépendante d'importation d'uranium de pas mal de pays, et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ce sont des pays qui peuvent être quand même fortement instables, hein. Les cinq pays qui sont fournisseurs d'uranium en France, c'est le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Namibie, le Kyrgyzstan, et vous avez aussi le Niger. Il y a en fait trois mines qui sont exploitées au Niger par une entreprise française qui s'appelle Orano, et en fait cet uranium il sert, sans rentrer dans les détails, mais au bon fonctionnement de nos centrales nucléaires et donc, in fine, de notre indépendance énergétique. Dans un contexte où l'indépendance énergétique, les différences de vision avec le voisin allemand sont des enjeux importants. Donc la France ne peut pas non plus faire totalement l'impasse sur ses ressources en uranium au Niger. Pour l'instant, les porte-paroles de cette compagnie française ont dit que les trois sites étaient sécurisés et que la production continuait de tourner. Mais voilà, c'est des importations, j'allais dire, qui sont stratégiques parce qu'elles sont vitales pour le pays. Et donc ça, c'est aussi un élément plus à considérer pour la France. J'ai presque envie de dire, c'est un peu l'équivalent du robinet à pétrole dans les années 70 avec les chocs pétroliers. Comment est-ce qu'on met le curseur pour qu'on ne ferme pas le robinet à uranium et donc qu'on mette en péril et en danger l'indépendance énergétique française? Donc ça aussi, c'est un point qui est vraiment très important à surveiller. Et donc ce qui fait que la France a aussi une position pour l'instant plutôt de retenue et qu'elle a plutôt, encore une fois, tendance à rassurer. Et c'est d'ailleurs assez rare que ce genre d'industrie communique aussi librement et aussi de manière aussi transparente comme ça a été fait par ce porte-parole qui a encore une fois dit que pour l'instant ces trois mines qui sont exploitées fonctionnent, elles continuent de fonctionner, elles sont sécurisées, etc.
Oui, c'est très intéressant pour la France. Ce putsch et cette situation politique au Niger a des conséquences bien plus que militaires ou humanitaires. Merci beaucoup, Nathanaël. Évidemment, on va continuer à suivre de près la situation au Niger. Dans le podcast Europa Voice, on s'est un petit peu éloigné des thématiques qu'on aborde en temps normal, mais c'est vraiment une situation particulière. C'était très intéressant de faire le point sur le Niger. Merci beaucoup, Nathanaël. On va parler maintenant de la situation en Israël. Pour commencer, la relation avec l'Australie. C'est très « je t'aime moi non plus » en ce moment entre les deux pays. Le premier ministre australien actuel, Anthony Albanese, on le rappelle, il est travailliste. Il voudrait reprendre l'usage de l'expression « territoire palestinien occupé » qui pourtant avait été abandonné par les gouvernements précédents qui étaient, eux, dirigés par le Parti libéral. Alors, si on refait un petit peu d'histoire, hein, juste pour nos auditeurs, 2018, l'Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, en précisant pour autant que l'ambassade ne serait pas transférée dans l'immédiat. Mais 2022, à peine 4 ans plus tard, changement de ligne politique à la tête de l'État australien, Canberra revient sur cette décision, ce qui bien sûr a suscité une levée de boucliers en Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, Nathanaël?
Alors c'est effectivement une très belle remise en perspective de ce qui s'est passé, parce que tout ça c'est une évolution, il faut le rappeler pour nos auditeurs d'Europa Voice, qui est arrivée en l'espace d'à peine 4 ans. Ça avait commencé en 2018 avec Morrison. Et puis là, les derniers rebondissements avec Penny Wong à la fin de l'année dernière.
Il faut juste... Je vous coupe, Penny Wong, ministre des Affaires étrangères en Australie.
Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères en Australie. D'abord, peut-être pour nos auditeurs d'Europa Voice qui ne sont pas familiers, il y a beaucoup de symbolique dans toutes ces discussions. Il y a du symbolique parce qu'en fait, de manière très pratique, un déplacement, par exemple, de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, on parle de 45 minutes de transport, on parle de villes qui sont séparées d'à peine de quelques dizaines de kilomètres. Mais évidemment, ça revêt une dimension très symbolique de considérer que la capitale d'Israël est Jérusalem ou Tel Aviv, et donc, in fine, de déplacer son ambassade. Et d'ailleurs, Morrison avait un petit peu ménagé la chèvre le chou, puisqu'il avait reconnu Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, mais il avait quand même indiqué ne pas déplacer l'ambassade australienne. Donc,
parce que si on veut bien comprendre, Jérusalem, contrairement à Tel Aviv, est revendiquée à la fois par les Israéliens et les Palestiniens.
Après la guerre de 67 et de la libération de Jérusalem par l'armée israélienne, en fait, la ville maintenant est divisée en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie ouest qui est en fait pas du tout contestée. La partie ouest de Jérusalem appartient à Israël, il n'y a plus de contestation. Et la partie est de Jérusalem, c'est là où il y a les éléments de contestation qui est une partie palestinienne, enfin en territoire palestinien. Donc il y a cette division Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, qui est en gros, en termes de géographie, qui est matérialisée par la vieille ville. En fait, c'est au niveau de la vieille ville, et après ça va évidemment au nord et au sud, mais qui a cette séparation. Et donc, en fait, c'est important de préciser ce qu'a fait Scott Morrison, c'est pas non plus de déplacer l'ambassade à Jérusalem-Est. Évidemment, il n'en était pas question, puisque Jérusalem-Est n'est pas israélien. Mais c'était symboliquement de dire que dans la Jérusalem, d'une certaine façon, pas encore réunifiée, on va mettre une ambassade australienne. Il avait, en fait, en ne faisant ça, il avait rebondi sur ce qu'avait promis et fait Donald Trump, qui lui avait déplacé en fait cette ambassade américaine à Jérusalem. Donc on est vraiment dans le symbole dans tout ça. Le deuxième élément, et ça c'est plus par rapport aux travaillistes australiens, c'est qu'en fait en faisant ça, il s'appuie aussi sur la doctrine des partis travaillistes à travers le monde. Et l'appellation en anglais, pour qu'on soit vraiment précis, c'est Occupied Palestinian Territories, parce que c'est des appellations aussi qui sont utilisées, contestées, revendiquées au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est un peu tout l'enjeu. Et donc, les travaillistes, en fait, en faisant ce revirement qui, encore une fois, est très symbolique, eh ben, ils montrent juste qu'ils se réalignent dans de ce que la doctrine des partis travaillistes à travers le monde. Ce qui fait aussi débat en Australie, Marianne, c'est que quand on parle de travaillistes, on a les travaillistes, on a un grand spectre des travaillistes. C'est-à-dire que ça va des travaillistes de Corbyn et du Labour, enfin de l'ancien Labour UK, qui sont très à gauche, revendiqués très anti-israéliens, aux groupes travaillistes plus classiques, notamment dans les partis travaillistes de l'Union européenne. Et donc c'est un débat qui est vraiment très symbolique. Et puis il y a une petite spécificité quand même, Marianne, locale avec l'Australie, c'est que ça a aussi eu, ce qu'a fait Scott Morrison il y a 4 ans, ça a aussi eu le don d'énerver certains pays limitrophes de l'Australie à majorité musulmane. Je pense aux Philippines, je pense à l'Indonésie. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. Et donc forcément, quand ça a été décidé par Scott Morrison, ça avait évidemment énervé le voisin indonésien de l'Australie et donc mis en péril pas mal de choses au niveau des échanges économiques, au niveau de la sécurité aussi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que l'Australie participe à beaucoup d'exercices sécuritaires avec ses voisins de la région, les Philippines, l'Indonésie, etc. Et donc c'est aussi de la réelle politique vraiment australienne de se réaligner sur ce vocable de territoire palestinien occupé et d'infirmer en fait la position de Scott Morrison de déplacer, enfin en tout cas de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël.
Mais justement, avec cette décision prise par Anthony Albanese là, cette semaine de reconnaître Tel Aviv comme la capitale d'Israël, comme c'était le cas avant, donc une décision qui a été saluée par l'autorité palestinienne, une décision qui est en accord avec la position de l'ONU, une position qui détend les relations avec les voisins musulmans, ce que vous venez d'expliquer. Ça peut être quoi les conséquences? Parce qu'Anthony Albanese, il est allé plus loin, hein, au-delà de vouloir changer de vocable. Il dit même qu'il veut renforcer ses sanctions contre les colonies israéliennes parce qu'il les qualifie d'illégales au regard du droit international. Il parle d'obstacles à la paix, ce sont des mots assez forts. C'est quoi les conséquences d'une telle annonce? Est-ce que même tout simplement va y en avoir?
Encore une fois, il y a quand même un effet un peu psh, ce genre d'annonce, c'est-à-dire qu'on en parle dans les journaux pendant quelques jours, parce que voilà, c'est une poudrière, c'est toujours très symbolique, c'est toujours très fort, mais très concrètement, ça aura peu de conséquences, parce que ce que fait le gouvernement d'Albanese, du Premier ministre travailliste australien, c'est simplement en accord et avec la position de l'ONU de manière générale. Donc il n'y a pas non plus une nouveauté, c'est simplement juste réaffirmer que l'Australie est en phase avec le vocable onusien, avec le constat que l'ONU, dans ses rapports, fait avec les territoires palestiniens occupés, avec les colonies israéliennes. Et c'est surtout, en fait, de rejeter aux oubliettes du quart d'heure de gloire de ce qu'avait fait Morrison en prenant cette décision qui, encore une fois, n'a aucune espèce d'impact dans la résolution du conflit israélo-palestinien, qui n'a absolument aucune espèce d'impact même dans les relations entre l'Australie et Israël. C'est-à-dire que les relations, elles vont ni se tendre ni se détendre à la suite de cette décision. C'est beaucoup de bruit pour rien et c'est simplement un réalignement sur à la fois la charte travailliste et la position de l'ONU sur ces questions-là qu'a réalisé Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères, et le Premier ministre Anthony Albanese.
Ok, on va laisser un petit peu l'Australie de côté pour se concentrer plus en détail sur la situation en Israël, comme on le disait en sommaire, parce que tout ce qu'on vient de dire, Nathanaël, ça intervient dans un contexte très particulier. En ce moment, le pays est en proie depuis janvier, donc plusieurs mois, à des manifestations de masse, des dizaines de milliers d'Israéliens dans la rue pour protester contre la réforme du système judiciaire qui est voulue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. En quoi ce contexte est particulièrement particulier ?
C'est une bonne remarque, parce que ce qui se passe avec l'Australie, c'est très mineur en fait dans ce qui est en train de se jouer en ce moment en Israël, parce que vous l'avez dit, il y a 8 mois de cela maintenant, en janvier, ont eu lieu les premières manifestations pour protester contre la réforme judiciaire. De manière très résumée, cette réforme judiciaire, son but, c'est de viser à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats, notamment au niveau de la Cour suprême. Et pourquoi c'est très problématique? Parce qu'on est dans un pays qui n'a pas de constitution. Donc les magistrats de la Cour suprême, c'est vraiment les garants de l'indépendance du système judiciaire et du contre-pouvoir du pouvoir politique. Et donc c'est perçu en fait voilà, comme un affaiblissement du pouvoir judiciaire, des magistrats de la Cour suprême, aussi dans un contexte où c'est encore plus que jamais une poudrière, à la fois au niveau de la société civile interne, avec des divisions qui n'ont jamais été aussi grandes que ce qu'elles ne sont maintenant, avec un pouvoir qui n'a jamais été aussi à droite que ce qu'il est maintenant, et au sein même de la région, avec un regain de tension avec le voisin à la fois palestinien, mais aussi, on l'a vu il y a quelques jours, avec le Hezbollah libanais. Et donc, voilà, on est dans un contexte où c'est où ce qui se passe, là je recoupe et je finis, ce qui s'est passé en Australie finalement par rapport à cette décision est complètement mineur et insignifiant par rapport aux enjeux qu'il y a en ce moment en Israël.
Bien sûr, et à propos de cette réforme, donc, vous l'avez bien résumé, bien expliqué, les détracteurs, eux, ils craignent une menace pour la démocratie. Le gouvernement, lui, assure qu'elle permet d'assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, donc justement diminuer un petit peu celui des magistrats de la Cour suprême en augmentant celui des élus, mais évoquant une certaine nécessité de rééquilibrer. Alors, tout n'est pas blanc ou noir, on le sait bien, Nathanaël, mais menace pour la démocratie ou nécessité ?
Ce qu'il faut aussi comprendre en Israël, c'est qu'il y a une... Depuis toujours, en fait, c'est comme ça. Le régime israélien, le régime parlementaire israélien, il ressemble beaucoup au régime de la 4e République en France. Alors, je ne sais pas si ça parle beaucoup à nos auditeurs d'Europa Voice, mais ça veut dire qu'il y a une vraie instabilité parlementaire parce que c'est des petites coalitions qui se mettent ensemble et il vous suffit de quelques députés pour renverser une majorité. Et donc, après, le groupe qui a la majorité, ou en tout cas qui est à la tête de la majorité au Parlement, choisit le Premier ministre et gouverne le pays. Et en fait, le problème, c'est qu'on a une société qui est tellement fragmentée, avec tellement de petits groupes politiques. Je ne vais pas jusqu'à utiliser qu'on a une macronisation de la politique, parce que ça existait avant l'arrivée de Macron, mais en Israël, vous avez les grands partis ont d'une certaine façon explosé, et vous avez une infinité de petits partis qui, en plus, jouent sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'on va avoir les oppositions classiques j'allais dire gauche, droite, mais vous allez ajouter en plus de cela les partis arabes israéliens, les partis orthodoxes juifs israéliens, vous allez ajouter les partis complètement laïques. Enfin, il y a vraiment une segmentation au niveau de la politique qui est le reflet en fait de la société israélienne. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai contexte d'instabilité. Ça crée des coalitions qui sont des fois contre nature. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir au sein du même parti des groupes par exemple très... orthodoxes qui vont s'allier avec des groupes politiques arabes sur des programmes où en fait il n'y aura aucune base, aucune plateforme commune parce que simplement sur un intérêt électoral d'avoir une coalition et donc vous allez avoir des petits partis qui vont peser énormément dans des décisions qui vont aller bien au-delà des sujets sur lesquels ils sont appelés à gouverner. Et donc tout ça, ça crée une instabilité qui est très grande et qui fait que, encore plus qu'en Australie, les gouvernements changent très, très rapidement. Donc ça, c'est les deux premiers éléments par rapport à, juste pour donner un petit peu d'éléments de contexte par rapport à la société israélienne. Et puis le troisième élément politique, c'est que, encore une fois, cette réforme, difficile de dire si elle est une menace et à quel point c'est une menace pour la démocratie, mais encore une fois, elle intervient dans un double contexte. Elle intervient dans un contexte où le pouvoir n'a jamais été aussi à droite qu'avant. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand vous faites sauter les verrous des contre-pouvoirs, le problème, ce n'est pas quand les partis démocratiques sont au pouvoir. Le problème, c'est quand les partis extrémistes arrivent au pouvoir. C'est le problème partout. C'est la même chose en France. Le problème de faire sauter des contre-pouvoirs, c'est le jour où les extrêmes arriveront au pouvoir. C'est pas quand les partis parlementaires, ils sont la droite ou la gauche. Donc ça, c'est, on y est. En Israël, on y est. À ce moment, on y est. C'est-à-dire que les partis les plus à droite de l'histoire sont au pouvoir. Et deuxièmement, on est dans un processus de paix qui est complètement mis à mal avec des attentats quasiment hebdomadaires, avec une poudrière au niveau de la frontière libanaise. Et donc, c'est ça aussi, c'est ça en fait, c'est que ça menace moins la démocratie israélienne que la stabilité du pays et la stabilité du pays dans une région qui, encore une fois, est en proie à un conflit qui a tendance à être revigoré là depuis quelques mois.
On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire l'avenir, mais si on essayait d'imaginer c'est quoi la suite en Israël, vous venez de le dire, la situation est totalement instable. À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois ?
Effectivement, on n'a pas de boule de cristal, mais d'abord, ce qui est très très inquiétant en Israël, c'est qu'il commence à y avoir aussi, de la part notamment de l'armée, qui était un pilier de stabilité dans un pays, quelle que soit la couleur politique, en fait, une fidélité de l'armée par rapport au pouvoir en place, qui est de plus en plus dans la contestation, dans le refus de certaines décisions politiques pour lesquelles d'habitude il avançait parce que voilà, armé du pays, quelle que soit la couleur politique. Donc déjà il y a cette question là, c'est-à-dire que jusqu'à quand en fait on va pouvoir composer avec dans un pays qui est très instable, en proie à de l'insécurité intérieure et extérieure, avec une armée qui n'est plus aux ordres du pouvoir politique. Et donc ce que ça veut dire, c'est aussi potentiellement une reprise de conflits armés qui pourraient déstabiliser le pays. Ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est difficile de prévoir l'avenir, mais personne ne prévoyait que ça allait durer déjà 8 mois et qu'on allait avoir des manifestations qui non seulement ne désemplissent pas, mais qui sont de plus en plus importantes. Il ne faut pas l'oublier, ça avait commencé avec des petites manifestations en janvier. Là, c'est des manifestations qui réunissent plus de centaines de milliers de manifestants et ça ne désemplit pas. Et c'est tous les jours, il y a des gens qui sont arrêtés de travailler pour participer à ces manifestations, le pays il est bloqué, etc. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et puis le troisième aspect, c'est au-delà de ça, c'est quelle est la sortie de crise, et ça fait le lien aussi avec notre premier sujet sur le Niger, c'est quelle est la sortie de crise politique. Comment on va s'assurer que même s'il y a des élections anticipées, même s'il y a un renversement de la coalition parce qu'un parti part d'une coalition, que ça n'arrivera pas dans 2, 3, 4, 6 mois. Et donc, pas de vision, mais surtout une interrogation sur la sortie de crise politique. Est-ce que ça doit passer par un Netanyahou qui part? Mais on l'a bien vu, hein, il était parti, il est revenu, donc les leaders s'accrochent au pouvoir. Ou est-ce que ça doit passer par une alliance peut-être beaucoup plus large? Et un Premier ministre qui n'est plus Netanyahou, qui est simplement membre de la coalition, mais sans être le Premier ministre. Donc c'est très difficile de lire, mais là on est vraiment sur une ligne de crête qui fait que ça peut basculer d'un moment à un autre, et très difficile de voir quelle est la sortie, encore une fois, de sortie de crise politique à la crise politique qui est en train de se passer en Israël.
Très intéressant, bah, là aussi, affaire à suivre. Merci beaucoup Nathanaël.
Merci Marianne.
Mesdames et messieurs, c'était votre Europa Voice numéro 115, on se retrouve très vite.